Et de retour à l'antenne. Nous sommes de retour à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois. La lumière rouge a clignoté, chers auditeurs. Merci d'être avec nous dans ce Restons Courtois du jeudi, ce Restons Courtois donc de Valeurs Actuelles. Je suis Marc Henault, je suis en plateau avec Valentin Gore du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir à nouveau Valentin.
Bonsoir Marc, à nouveau.
Et Étienne Darjac, éditorialiste bien connu des auditeurs de cette radio. Et notre invité est aujourd'hui Alexandre Allégret-Pilot. Bonsoir monsieur le député. Donc député de la 5e circonscription du Gard, membre du groupe UDR, il appartient à cette nouvelle génération de responsables politiques issus à la fois de la haute fonction publique et de la droite intellectuelle, ancien élève de l'ESSEC et de l'ENA, passé par le ministère de l'économie où il a travaillé sur les restructurations d'entreprises. Il s'est fait connaître du grand public lors des dernières élections législatives, notamment aussi par des coups comme le décrochage nocturne de drapeaux palestiniens dans une mairie du Gard. Vous faites partie, parce que vous êtes là, de ces députés qui maîtrisent les codes des réseaux sociaux. En fait, Alexandre Allégret-Pilot, si je devais tenter un petit peu une vanne, vous êtes un peu le Antoine Léaumont de l'UDR.
Je sais pas si c'est un... Oui, on pourrait... Je sais pas. Je ne sais pas.
Je ne sais pas si c'est un compliment.
Je ne sais pas comment me positionner. Je pense que j'escalade mieux que lui, du coup, par rapport au drapeau.
Vous êtes peut-être meilleur grimpeur, effectivement. En tout cas, vous avez publié dans Valeurs Actuelles une tribune consacrée au concours, au quota et à la sélection scolaire, dans laquelle vous défendez le principe du mérite et critique les politiques de discrimination positive mises en œuvre aux États-Unis et qui sont évidemment bien installées en France, voire même la France reprend de l'avance sur cette question, alors que certains pays, justement, font demi-tour. Nous allons donc revenir avec vous sur cette question sensible, comment concilier égalité des chances, excellence académique et justice sociale. Finalement, votre tribune repose sur une idée extrêmement simple, les concours anonymes sont plus justes que les quotas. Pourquoi considérez-vous que cette question est aujourd'hui devenue un enjeu politique majeur? En tout cas, suffisamment important pour vous y intéresser.
C'est un enjeu à deux titres. Premièrement, c'est un enjeu au regard de la compréhension qu'on a de notre environnement et des récriminations que certains peuvent avoir en se disant « oui, je suis discriminé ou pas discriminé, etc. » et donc de la constitution dans notre société de deux blocs, en réalité, avec une approche, une mentalité un peu négative. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est un souci d'efficacité. Parce que la méritocratie, ça a deux fondements potentiels. Le premier, c'est de se dire « bon, bah, donner chacun ce qui lui revient en termes de mérite. » Mais le deuxième, de façon extrêmement pragmatique, c'est « qu'est-ce qui est le plus efficace pour une société, en réalité ?» Eh bien, c'est la méritocratie, puisque c'est avoir les meilleurs au meilleur endroit, en fonction de leur spécialité, en fonction de leur capacité, de leur volonté de travailler. Et donc, quand on veut avoir une société qui fonctionne bien, en réalité, il faut mettre la méritocratie partout, pas pour vous rendre service à titre individuel, parce que vous avez une récrimination ou une volonté de bénéficier de telle ou telle mesure. Non, pour la société dans son ensemble.
Et vous avez notamment évoqué le fait que finalement ce sont les États-Unis qui ont un petit peu été pionniers sur cette question-là, qui sont en train de faire demi-tour, en partie justement pour les raisons que vous invoquiez. Comment se fait-il que la France embraye là-dessus? Je pense notamment à Elisabeth Borne qui avait son fameux plan plus de femmes ingénieures. Quoi. En gros, il y a pas assez de femmes dans les filières scientifiques, il en faut plus et donc il faut encourager cela.
Plusieurs éléments, je pense on a une capacité à être dans l'idéologie qui est quand même exceptionnelle en France. C'est un peu l'héritage de Foucault, de Sartre, etc. C'est-à-dire la réalité importe relativement peu. Ce qui compte, c'est le discours. Voilà, le verbe prédomine au réel. Et donc il suffit de dire des choses pour que ça marche, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est aussi que je pense qu'on a des élus, des hommes et des femmes politiques en l'occurrence, qui n'ont aucune idée et qui ont besoin de se trouver des thèmes pour lancer du débat, pour exister. Donc quand on ne sait pas quoi faire, quand on n'a aucune idée pour résoudre des problèmes qui sont des problèmes fondamentaux de notre pays, qui sont connus par à peu près tout le monde, hein, l'équilibre budgétaire, la sécurité, la démographie, c'est quand même des thèmes assez simples, hein, mais que personne ne veut vraiment traiter, on se trouve des faux sujets. Qui sont assez rentables parce qu'ils tapent sur une communauté qui est assez large.
Alors, parce qu'on ne veut pas les traiter ou parce qu'on ne peut pas les traiter, d'après vous, vous qui êtes à l'Assemblée nationale depuis, ça va faire 2 ans, là.
Sur les grands sujets en question.
Sur les grands sujets régaliens, notamment. Cette impuissance-là, justement, cette incapacité à régler les problèmes de fond, et donc on se met sur des petits combats un petit peu transversaux. Je pense même à Yael Braun-Pivet et la continuation de l'IVG, même Elisabeth Borne qui voulait féminiser le fronton du Panthéon. Enfin, on est un peu sur ces combats-là, quoi.
Que de la com, que des trucs secondaires. Il faut se poser la question. Mais pareil, comme quand Emmanuel Macron intègre l'IVG dans la Constitution. Quelle est l'utilité? Non, c'est des gros coups de com' pour entrer dans l'histoire, dans la communication. Là, l'euthanasie, c'est pareil. C'est des grands coups de com' pour entrer dans l'histoire. Le fond, à savoir la continuité de notre nation, son développement, le bien-être des Français, leur prospérité, les importe peu parce qu'ils se disent je pense que ça ne les intéresse pas, en fait. Sauf que quand on demande de telles responsabilités, parce que c'est une demande qu'on fait aux Français de nous confier un mandat, c'est pour régler les vrais problèmes, pas pour s'occuper de la couleur des volets du voisin, si vous voulez. Or là, on s'occupe de la couleur des volets du voisin, parce qu'il y a un côté très très démago dans tout ça, populiste en réalité, de ceux qui critiquent le populisme en permanence, ils sont totalement populistes.
Alors ceci dit, le constat d'Elisabeth Borne est qu'effectivement, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans les écoles d'ingénieurs, dans les filières scientifiques, ça c'est une réalité. Comment d'après vous, certaines filières justement restent beaucoup plus masculines que féminines?
Alors, grand scoop, il se trouve que des groupes différents peuvent avoir des appétences statistiquement différentes. Ça, c'est un très très grand scoop.
Merci pour l'information, merci Elisabeth.
Mais je m'étonne qu'Elisabeth Borne ne soit pas étonnée elle-même qu'il y ait 76% de femmes à l'ENM. Elle ne propose pas un grand plan de masculinisation de l'ENM. Puis on parle de science, mais les rares formations où il y a plus d'hommes que de femmes sont des cas d'élite dans les sciences. Si je prends les vétérinaires, si je prends la biologie c'est de la science, vous avez plus de 60 à 70% de femmes. Mais là, on ne propose pas un grand plan de masculinisation. Non, c'est parce qu'il y a une vision extrêmement paternaliste et en fait méprisante des femmes. On considère que quand il y a moins de femmes, c'est parce qu'elles subissent. Quand il y a plus de femmes, bon, c'est très bien. Et que les hommes, au contraire, sont des sortes d'oppresseurs systématiques et devraient être éliminés des formations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'université, en réalité, vous avez 56% de femmes, donc vous avez plus de femmes que d'hommes. Et qu'en master, diplômé de master d'université, vous avez quasiment 60% de femmes. Et là, je ne vois pas de grand plan pour masculiniser. Vous voyez, moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait plus de femmes que d'hommes dans certaines filières. Je constate que les filières où les hommes sont, les filières d'élite où les hommes sont prépondérants sont extrêmement maigres en réalité.
Valentin Gore.
Alors moi, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup dans la défense que vous faites ici du concours et dans l'attaque que livre Elisabeth Borne contre le concours qui a quand même été à la base aussi des fameuses valeurs républicaines. C'était même une revendication de la gauche contre les charges héréditaires du temps jadis. Comment se fait-il que la gauche française, qui encore une fois jadis vraiment défendait ces concours, s'est tout à fait retournée et que c'est aujourd'hui vous, la droite libérale, qui défendez ce vieux principe français qui a quand même été à la base de beaucoup de choses?
Le côté libéral, justement, c'est... Moi, j'ai fait beaucoup de maths sur l'optimisation et l'allocation des ressources. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, la méritocratie, c'est une des façons de bien allouer les ressources dans notre société. Donc, c'est pas totalement délirant au regard de l'ADN libéral. Ou de l'ADN très objectif, très pragmatique. Et comme je le disais tout à l'heure, on a une gauche qui est beaucoup dans l'idéologie. Il se trouve qu'une idéologie en chasse une autre. Voilà. Il y en a une qui a remplacé l'autre et qui est celle, beaucoup plus, à mon avis, d'un clientélisme, d'une forme aussi de complexe de supériorité et donc d'infériorité vis-à-vis de personnes qui seraient des femmes, qui seraient des immigrés, etc., dont on prétend qu'elles seraient...
Une forme de néocolonialisme, en fait.
Mais c'est un peu ça. Qui serait ontologiquement ou socialement, par construction, inférieure et donc nécessiterait certaines aides. Mais c'est extrêmement méprisant.
Etienne Darjac.
Oui, il est intéressant cette question, monsieur le député, de se poser la question de ce qui explique ce rapport à la réalité de la gauche et cette espèce de ce comportement donquichotesque, j'allais dire. Moi, j'y vois surtout, avant de parler de théopolitique, je vois surtout du narcissisme, en fait. La gauche, a depuis sans doute au moins quelques décennies, a perdu complètement prise avec la réalité du pays, avec le quotidien des Français, que ce soit sur les aspects économiques, sécuritaires, sur en fait ce qui fait la vie au quotidien du peuple qu'ils sont censés représenter. Et pour compenser cette perte de contact avec le réel, on trouve des moyens de se projeter une image de soi embellie, de belles valeurs, de beaux sentiments, qui est une manière de dire aux Français, mais regardez, on avance quand même.
C'est presque du Fabrice Luchini dans le texte.
Oui, c'est... je vous remercie. Et donc, il y a donc, le cas que vous citez pour les filières scientifiques d'élite est particulièrement probant, mais on peut aussi citer cette histoire qui revient tous les ans de différence salariale entre les hommes et les femmes.
Merveilleux.
Vous savez, où à chaque fois et tous les ans, il y a toutes les députées de France et tous les journalistes qui nous disent « Il y a 25% de différence de salaire entre les hommes et les femmes ». Et après, on ouvre un article du Figaro de l'heure actuelle, pardon, et on regarde, en fait, à poste égal et études égales, non.
Alors, si vous faites le calcul, c'est même l'inverse. Hein.
Moi, je suis un être plein de candeur, monsieur le député, et j'ai tendance à me dire, mais si, moi, j'entends les femmes tous les ans disent à partir de telle date, nous travaillons gratuitement, puisque nous touchons moins de salaire. C'est juste faux.
Alors, c'est pas les femmes, c'est quelques fanatiques. Et puis, des gens qui sont revanchards, parce qu'on leur a disons... inculquer l'idée qu'elles avaient subi pendant des générations, etc. Moi, ma mère n'a jamais subi, ma grand-mère n'a jamais subi, mon arrière-grand-mère n'a jamais subi. Voilà.
Ouais, donc voilà. Donc, en tout cas,
tout simplement.
Ce que je voulais dire, c'est que voilà, le narcissisme, ça devient un petit peu le cache-misère de l'inefficacité politique. Et je trouve que la meilleure démonstration de ça, c'est un peu la loi sur la fin de vie et l'euthanasie. Qui est devenu un peu le dernier cheval de bataille du macronisme mourant lui-même, et qui est un peu cette espèce de cache-misère. Vous avez parlé tout à l'heure de rentrer dans l'histoire, je crois. C'est exactement ça, en fait. Macron et ses sbires, ceux qui restent, en tout cas, se disent, bon, dans 10, 15, 20 ans, on parlera sans doute pas de la finale de Ligue des Champions, mais on dira, la grande réforme progressiste.
Ni de la situation économique de la France.
Voilà. Il y aura eu la PMA en premier mandat, il y aura eu l'euthanasie au deuxième.
On est effectivement sur un sujet de vanité, ça c'est sûr. En fait, la gauche se rêve en Prométhée, mais Prométhée a eu le mérite d'apporter le feu, si vous voulez. Donc, elle s'invente des petits trucs, mais qui n'en a rien à voir. Je vous donne un exemple. Hier, on a eu un débat assez long à l'Assemblée nationale sur le cadmium. Hier avant-hier, qui était très très long. Et si vous regardez l'impact de la loi qui a été votée, au regard des quantités de cadmium en circulation dans notre pays, c'est marginal, en réalité. C'est-à-dire que c'est pas cette loi qui va sauver la population. Parce que vous avez une quantité d'engrais phosphatés qui est importée, qui a été divisée par 20 en 40 ans, et que la question c'est le stock et pas les flux, et là on s'occupe des flux et on ajoute à la marge. Bon, je passe. Mais il se trouve que vous avez toute une mise en scène, pendant des heures et des heures, d'une gauche et de certains écolos qui se présentent comme les sauveurs de l'humanité, contre les méchants réactionnaires, si vous voulez.
Il fallait poser un marqueur, en fait. Quoi.
Exactement. C'est un marqueur qui est posé, mais qui est posé de façon relativement arbitraire, comme ça a été le cas sur la loi Duplomb. Et donc, on sort du débat rationnel, et on est dans des grandes envolées insupportables.
C'est comme l'abrogation du code noir, par exemple.
Voilà, typiquement, oui, quelle est l'utilité, là?
Ou la promotion posthume de Dreyfus en général.
C'est du théâtre.
Valentin Gore.
Oui, on pourrait même citer aussi, c'était il y a 10 ans maintenant, l'abrogation de la loi qui interdisait aux femmes de porter le pantalon. Je crois qu'au début, qui n'a peut-être jamais même été appliqué. Voilà, mais c'est intéressant ce que vous dites tous les trois, parce que finalement ça nous montre que la gauche pense profondément que la société est malade, qu'il y a un problème et qu'il faut absolument la régler. C'est-à-dire, c'est pas normal que les femmes veulent faire certains métiers, les hommes d'autres. Il y a un problème. Donc, c'est aussi le jacobinisme. Hein. C'est le côté, il faut faire rentrer les gens dans des cases, dans nos statistiques à nous. Il y a aussi un peu de ça derrière ce que dit Elisabeth Borne.
C'est ce que disait déjà Simone de Beauvoir. Voilà. Si vous laissez les femmes faire ce qu'elles voudront, elles ne voudront pas faire ce que je veux. Et donc, voilà, il faut les forcer. Oui. Là, c'est un peu ça. Ça n'a pas changé. La gauche a cet ADN qui est un ADN liberticide.
Les radicaux s'opposaient au droit de vote des femmes en se disant qu'elles voteraient comme leur curé et que du coup, ce serait absolument... Elles voteraient ce que leur dirait leur curé et que ce serait absolument terrible pour eux. Étienne Darjac a évoqué la loi fin de vie. C'est un des projets de loi, une des propositions de loi qui est le plus débattue à l'Assemblée nationale, enfin, qui... avec le plus d'enjeux, en tout cas. tout le monde mise sur un vote à la fin de l'été et une promulgation cet automne. Déjà, sur le plan du calendrier parlementaire, on entend un petit peu de tout selon vos collègues. Même dans le bloc central, certains doutent que le calendrier puisse être mené à bien. Est-ce que vous pensez que cette loi a le temps d'arriver à son terme avant la fin du quinquennat Macron, déjà?
Moi, j'ai aucun doute là-dessus.
Ouais.
Je pense que tout est fait pour que ça arrive à son terme. C'est une loi qui va passer à marche forcée. Alors que l'urgence n'est pas là. Si vous voulez, dans le même temps, on est en train de voter une loi sur l'euthanasie et on a déremboursé des mémantiques, c'est des médicaments qui luttent contre la démence chez Alzheimer et qui ralentissent Alzheimer de 6 mois. Donc si vous voulez, on dérembourse la lutte contre Alzheimer, alors ça fait que ralentir de 6 mois, toujours est-il que c'est un soin, déremboursé. Par contre, votre euthanasie, elle sera remboursée à 100%.
C'est d'ailleurs tout le, oui. c'est d'ailleurs tout le sujet. Et d'ailleurs, ce débat loin fin de vie, on le voit parce que examen après examen, on voit la majorité qu'on nous annonçait écrasante. Enfin, c'était pour les promoteurs de l'euthanasie, c'était plié d'avance. Moi, j'entendais Olivier Falorni dire que 80% des Français y étaient favorables, donc ça se répercuterait à l'Assemblée nationale. Et on voit que le premier vote n'était pas si large que cela, le deuxième encore moins. Est-ce que on voit quand même, justement, on parlait de la symbolique au détriment de la réalité. Est-ce que justement cette réalité de l'euthanasie, cette réalité de ce que c'est qu'une euthanasie, est en train quand même de faire son chemin chez les députés et finalement que la réalité a des conséquences, en quelque sorte.
Il y a eu un travail très très long qui a été fait par les lobbies depuis 20 ans sur l'euthanasie avec des éléments de langage, le droit à mourir dans la dignité, ce genre de choses, c'est du niveau de mon corps, mon choix, si vous voulez. Et ça, ça marche très bien, ça a été développé pendant 20 ans. Donc vous arrivez avec ça. Si vous n'avez pas fait le travail en miroir, la pente à remonter est énorme. Alors, avec mes collègues de l'UDR, on l'a fait un peu, beaucoup même, moi c'est ce que je fais depuis un an, et on voit que ça porte un peu, ça marche, mais ça suffit pas, c'est pas en 2 ans que vous allez rattraper 20 ans de propagande. Donc, et on voit que c'est de la propagande, parce que quand vous expliquez aux gens, les tenants, les aboutissants, la réflexion, ils comprennent tout à fait. Ça montre aussi que les sondages autour de slogans, c'est trop facile pour manipuler la population, et que la population a été totalement manipulée.
Et voulez-vous mourir dignement, quoi, en fait.
Qui ne veut pas mourir dignement? Arrêtons la blague. Arrêtons la blague.
Voulez-vous souffrir atrocement avant de mourir? Oui ou non?
Étienne Darjac, vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet?
Oui, moi je crois que, et monsieur le député, vous nous direz peut-être si vous avez senti cette prise de conscience-là. Justement, on parlait à l'instant de ce projet qui a été un peu lancé comme un totem, comme le dernier totem progressiste de la Macronie d'une partie de la gauche. Je crois qu'effectivement, ils se sont cassés les dents sur une résidence parlementaire beaucoup plus acharnée que prévu, et que peut-être, alors je suis peut-être un peu plus optimiste que vous, ou un peu moins,
c'est bien,
ou un peu moins sans doute proche des réalités parlementaires, je m'accroche un peu à l'espoir que de polémique en polémique, de report en report, on va finir par trop se rapprocher de la fin de la mandature pour qu'un texte aussi important, aussi fondamental puisse voter. Est-ce que vraiment...
J'espère que vous avez raison. Pour autant, les polémiques, on peut regarder ce qui... Une fois que c'est passé, vous regardez dans les pays dans lesquels, au Canada, sur lesquels il y a des dérives qui sont terribles.
Ils sont sordides.
Ça revient pas. Donc là, on va voir ça. Après, vous allez avoir la GPA dans le package. Au bout d'un moment, tout passe. Suffit de bien préparer les choses en communication.
Ben, d'accord.
Oui, hein, bien sûr, sur le fait qu'on ne revienne pas sur ces fameuses lois sociétales, terme ô combien piégeux, puisque c'est intéressant, ça permet aussi à certains de vos collègues de pas prendre position, ou alors de considérer que ça relève du choix de chacun et que c'est pas à un groupe politique de fixer une ligne. C'est pas le cas à l'UDR, certes.
À l'UDR, on a été tous alignés. Voilà, il se trouve qu'on a on a un petit groupe, c'est peut-être plus facile. Donc on a tous eu la même volonté de s'opposer en bloc à... Mais il y a eu une grosse réflexion aussi, hein, c'est que moi j'étais pas forcément totalement opposé à l'idée à l'origine. Puis j'ai creusé le texte, j'ai vu ce qu'il proposait, j'ai proposé des solutions pour limiter les dangers. J'ai vu que chacune de mes solutions qui visait à fermer une faille était balayée.
C'est tout le problème d'ailleurs de ce projet de loi qui disait regardez, il y aura des lignes rouges, mais de fait, comme on voyait les lignes rouges sautées amendement après amendement et etc. En fait, mais c'est un peu comme la constitution de l'IVG, où on constitue l'IVG pour que personne n'y touche, et en même temps on démontre nous-mêmes qu'en réalité on peut toucher à la constitution de manière finalement assez aisée. Est-ce que c'est pas ça le piège aussi du raisonnement?
Oui, tout à fait. Déjà, notre constitution, c'est devenu une sorte de flyer politique. Vous voulez, c'est plus une constitution. La constitution, c'est l'organisation des pouvoirs. Tout le reste, c'est pas là que ça a sa place. Et puis effectivement, ces lignes rouges sont devenues des pointillés roses.
Dernière question, Alexandre Allégret-Pilot. En 2027 aura lieu l'élection présidentielle, donc a priori, votre famille politique devrait soutenir la candidature de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen. Vous avez vu les sondages, vous avez vu le nombre de candidats qui se pressent au portillon. Comment, question extrêmement simple et large, comment vous sentez cette élection présidentielle?
C'est un peu tôt.
Ouais.
J'ai l'impression que les dernières élections présidentielles en France ont vu un coup de théâtre arriver systématiquement 5 mois avant. Je vais pas refaire l'élection de François Hollande, je vais pas refaire l'élection d'Emmanuel Macron, la première. Mais on a toujours un sale coup qui est préparé 4-5 mois avant avec plus ou moins de finesse, qui fonctionne plus ou moins. Donc moi je croise les doigts, on sera dans la bataille.
Là, le coup judiciaire est arrivé un petit peu avant cette fois, concernant Marine Le Pen en tout cas.
Oui, mais vous savez, le système macroniste a des ressources qu'on ne connaît pas, donc on verra bien ce que ça donne. Dans tous les cas, nous on sera sur le front et on va avancer.
Merci beaucoup Alexandre Allégret-Pilot, député UDR du Gard, d'être venu nous parler de méritocratie et de fin de vie. Restez avec nous, chers auditeurs, puisque dans quelques instants, nous reviendrons vers vous avec un nouveau débat. En attendant, le politologue Arnaud Benedetti, qui viendra nous parler de cette élection présidentielle et des 199 candidats qui se pressent au portillon. Mais en attendant, petit message de votre radio. Et de retour à l'antenne de Radio Courtoisie, chers auditeurs, dans l'émission Restons Courtois. Restez avec nous, puisqu'après le député Alexandre Allégret-Pilot, nous retrouverons le politologue Arnaud Benedetti, avec qui nous allons revenir justement sur ce nombre incroyable de candidats qui se pressent à l'élection présidentielle. Mais en attendant, chers auditeurs, trouvons un petit sujet de discussion. Alors, c'est assez intéressant. Je vais pas trop déflorer le sujet avant l'arrivée d'Arnaud Benedetti, mais il y a eu un mouvement qui m'a beaucoup interpellé ces derniers temps, et Alexandre Allégret-Pilot a évoqué la GPA. Quelle mouche a piqué Gabriel Attal de lancer ce sujet-là avant même que l'élection présidentielle se fasse, avant même que les forces du bloc central soient lancées? À quoi ça correspond pour vous cette sortie de Gabriel Attal, Valentin Gore?
Je me le demande, pour tout vous dire. Je pense peut-être à une conviction profonde chez lui. Peut-être est-il tout simplement très favorable à cette idée de GPA.
Alors, il y a de ça déjà.
C'est possible.
Vous n'êtes quand même pas en train de dire qu'un homme politique pourrait agir par conviction.
Si, surtout quand elles sont mauvaises. si, à ce moment-là, c'est tout à fait possible. Mais j'ai remarqué tout de même, en voyant certains de ses lieutenants, qu'il y avait une forme de rétropédalage en disant non, ou alors vraiment ce serait dans un cadre extrêmement... Voilà, j'ai senti qu'il y avait vraiment un malaise sur le sujet, en tout cas.
Étienne Narjac.
Oui, moi, blague à part, je pense aussi que c'est une conviction profonde chez Gabriel Attal. Sans doute, par ailleurs, se sont-ils concernés au premier chef par les possibilités qu'ouvrirait l'adoption de la GPA. Néanmoins, je pense aussi que, et ça va rejoindre la discussion qu'on vient d'avoir avec le député Allégret-Pilot, c'est aussi un totem progressiste, et il en a besoin. Gabriel Attal, s'il va au bout de sa candidature, ce qui n'est pas dit, il aura bien des difficultés, je pense, à trouver le bon créneau entre les macronistes de droite, les macronistes du centre, les macronistes de gauche, puis les gauches pas macronistes et les gauches macronistes, et la droite... Enfin bref, vous voyez bien où on va.
50
nuances de néo-macronisme.
De bloc central.
Donc si vous voulez, il s'est un peu... je pense un peu de façon un peu opportuniste, il s'est mis sur un créneau. Voilà, il a pris la grosse mesure progressiste, la dernière, celle qui manque au package, avant, j'imagine, l'avortement, hein, jusqu'à 6 mois, ou j'en sais rien. Et il campe là-dessus. Alors je pense qu'il a effectivement senti que ça prenait pas tant, d'abord parce que c'est absolument grotesque de l'annoncer aussitôt. Tout le monde se tue à dire que la présidentielle n'a pas commencé, et qu'elle commencera pas avant 5 ou 6 mois, au moins, dans l'esprit des Français. On s'en est moqué la semaine dernière. Gabriel Attal, il a déjà tout fait. Il a fait les déplacements en province, les mesures, les meetings.
C'est un très très bon marathon.
C'est un très bon marathon, mais bon, il faut qu'il se méfie, Gabriel Attal, parce que il a fait un passage à Matignon qui était tout aussi éclair. Il faudrait pas qu'il prenne l'habitude de faire les choses trop vite et de se vautrer trop tôt.
Valentin Gore, pour conclure sur Gabriel Attal.
Non, mais je trouve que vous avez raison. Et puis il y a un côté grotesque chez ce personnage. Moi, je le dis très carrément. Quand on voit une déclaration de candidature dans l'Aveyron devant davantage de journalistes que de militants, avec vraiment un côté village Potemkin, le côté on joue à Jacques Chirac, on boit de la bière à 8h du matin. Moi, J'ai vécu toute mon enfance en province, en Bourgogne, qui est pourtant pas la région la plus
la moins
éthylique de France. Vous avez dit la bonne expression. Ça existe, ces gens qui boivent le matin, comme il y en a à Paris, mais enfin c'est quand même pas ça la province. Donc il faudrait aussi sortir d'un espèce de mépris où on joue à une espèce de carte postale qui n'a jamais existé d'ailleurs et qui est absolument grotesque. Surtout quand on s'appelle Gabriel Attal et qu'on a connu jamais que les poneys du parc du Luxembourg.
Vous n'avez pas sorti votre carte, Valentin.
Quelle carte?
La carte que vous avez fait la semaine dernière sur les lieux de vie de Gabriel Attal.
C'était Thomas Morel.
Thomas Morel la semaine dernière a imprimé Google Maps.
Oui, c'est ça.
Le parcours de vie de Gabriel Attal.
Oui, entre 3 arrondis, un triangle ou un carré.
C'était absolument fascinant. Oui, mais
on vous retrouvera la séquence, chers auditeurs. Étienne Darjac, continuez.
Non, pour conclure en deux mots sur ce que dit très justement Valentin, en fait, Gabriel Attal ne fait rien d'autre que cocher des cases. Il a coché la case progressiste, PMA. Et là, il a coché la case campagne. Il s'est dit, bon, bah, j'ai bu une bière à 9h du mat avec des exposants.
J'ai mangé du tripou parce qu'évidemment, les beaufs de l'Aveyron mangent forcément du tripou
des
petits déjeuners.
Bizarres. Voilà, c'est comme chacun le sait.
Exactement.
Voilà, donc parce il a coché cette case-là.
Ils sont tous forcément un peu alcooliques.
Et puis, bah, donc, je crois que son meeting, c'est déjà passé ou c'est bientôt la semaine?
Non, c'est passé. On s'en rend pas compte.
Vous suivez pas l'actualité nationale brûlante, Étienne Darjac.
Donc voilà, donc il va passer probablement les premiers mois de sa campagne à cocher des cases comme ça.
Quelques messages de nos auditeurs, une auditrice, alors je me planque derrière le fait que c'est une auditrice qui nous écrit, puisque le fait de vouloir plus de femmes dans les métiers d'ingénieur est complètement irréalisable d'après elle, car elle, de sa propre observation, elle trouve que les femmes sont naturellement moins disposées aux matières scientifiques. Elle nous dit d'ailleurs que c'est prouvé scientifiquement entre la différence entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Voilà, c'est une observation, alors n'étant pas scientifique moi-même.
Et votre avis, Marc, sur la question?
Moi, vous savez, j'ai passé un bac littéraire, mon épouse aussi, et généralement dans ce genre de cas, moi, je me fie que de ce que je connais, de ce que je vois. Sinon, vous avez des ennuis, Étienne.
Vous êtes une prudence qui vous honore, Marc.
Bisous l'Arcom. Alors, nous avons ensuite un auditeur, je crois que c'est un auditeur qui nous dit, qui revient sur le secret de la confession, obliger le prêtre à casser le secret de la confession, c'est le ramener au statut de fonctionnaire qui est le seul obligé de dénoncer un crime ou un délit par article 40 du code de procédure pénale. C'est donc faire de l'église un service public de l'État et se faire du catholicisme une religion d'État. Quelque part, la laïcité va-t-elle mourir de ses propres contradictions?
Paul Vanier est-il le nouveau Gallican du 21e siècle?
On n'est pas loin. Après, moi, j'ai un autre sujet. La fraternité Saint-Pédis, est-elle le nouveau gallicanisme?
On n'en parlera pas. Ils n'en parleront pas. Ils en ont parlé.
Voilà, donc il y a un message de notre auditeur au sujet justement de la commission de la gauche. Depuis quand la gauche est-elle excusée? Par ailleurs, par essence, elle ne peut pas, car elle est la nouvelle religion de substitution depuis 1789. Par contre, la fausse droite est toujours l'éternelle coupable, voire culpabilisatrice à son encontre ou envers les patriotes. Voilà, donc c'est une manière de formuler cette phrase de Mathieu Bock-Côté que j'aime beaucoup, qui est de dire il suffit qu'elle soit contestée pour que la gauche se sente assiégée. C'était une des grandes formules de Mathieu Bock-Côté. Il me semble que c'était un de ses premiers livres qui était arrivé jusqu'en France. Et c'est tout à fait de bon aloi pour cette situation. Je vois que le politologue Arnaud Benedetti nous a rejoint. Bonsoir Arnaud, comment allez-vous?
Bonsoir, merci, ça va très bien.
On feuilletait le kiosque Arnaud et on a vu cette une, en tout cas ce dessin de Charlie Hebdo absolument hilarant, qui disait notamment « Information Charlie Hebdo, 10% des Français ne se sont pas encore présentés à l'élection présidentielle ». Pour la faire courte, Arnaud Benedetti, on voit les déclarations de candidature, les déclarations d'intention se multiplier. Nous sommes à plus d'un an de l'élection présidentielle déjà. Pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément de mémoire ou qui sont plutôt jeunes, est-ce que c'est courant ce genre de séquence où au final on a des dizaines de personnes qui sont présidentielles ou se définissent comme candidats ou en tout cas réfléchissant à la question?
Alors disons, dans les candidats que je qualifierais d'autorisés professionnellement en politique, je crois qu'on a en effet une très grande abondance à 10 mois du premier tour de cette élection. Alors après, on est aussi, j'allais dire, dans une sorte de tour de chauffe où certains testent la possibilité de leur candidature, d'autres prennent date pour d'autres, peut-être, échéances également. Donc il y a aussi cet aspect-là, cette dimension propre au jeu politique qui explique aussi cette multiplicité des candidatures. Alors, il va y avoir quand même un facteur qui va être extrêmement important, c'est le filtre que constitue ensuite la recherche des signatures. Je rappelle quand même que
bien sûr.
Il faut avoir 500 signatures dans 30 départements. Donc, on a là, si vous voulez, un processus qui va écréter quelque part le nombre de candidatures. Je rappelle qu'à la première élection présidentielle en 1965, donc il y a maintenant 61 ans, il y avait 6 candidats dans la première élection. Le général de Gaulle, François Mitterrand, Jean Le Canuet, M. Tixier-Vignancourt, entre autres. Donc, c'était le choix qui était offert aux politiques. Mais ça dit deux choses. Ça dit d'abord, première chose, qu'on a un champ politique qui est de plus en plus fragmenté, ça c'est un premier point. Donc ce qui explique cette fragmentation génère en effet de plus en plus de candidatures potentielles, probables, effectives. Et puis la deuxième chose, c'est que peut-être assistons-nous à une dévalorisation, une démonétisation de la fonction présidentielle.
Ouais.
Regardez tout à l'heure, c'était intéressant, un historien publiait une déclaration qu'avait fait Pierre Messmer, qui avait été plusieurs fois ministre, Premier ministre, également de Georges Pompidou, compagnon de la Libération, et qui disait, je crois, c'était en 1974, où on avait envisagé à un moment donné qu'il puisse être candidat, puisqu'il était le dernier Premier ministre de Georges Pompidou, qui considérait qu'il n'était pas à la hauteur de la fonction. Georges Messmer. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent être à la hauteur d'une fonction qui, faut-il le rappeler, a été quand même forgée dans le moule du gaullisme par le général de Gaulle et avec l'idée que la fonction présidentielle, c'est une fonction transcendante, monarchique, qui prend sur ses épaules tout le poids de l'histoire de France. Quelque part, ça dit aussi que finalement, peut-être qu'un certain nombre de candidats n'ont pas véritablement conscience de ce qu'est le poids de cette fonction.
Effectivement, on ne sait pas si Pierre Messmer en avait des compétences. En tout cas, moi, j'en connais beaucoup qui sont en dessous de Pierre Messmer. Ça, c'est à peu près certain. Et alors, j'ai peut-être une troisième raison pour vous, Arnaud Benedetti. Est-ce que le fait que le ticket d'accession au second tour soit très, très bas, est-ce que ça aiguise pas aussi les appétits? Puisque, alors, si on en croit les sondages qui tombent aujourd'hui, on a Jordan Bardella ou Marine Le Pen, c'est selon, qui semblent intouchables en tête, avec plus de 30% des voix, quel que soit le cas de figure. Et finalement, un ticket d'accès au second tour qui serait plus autour de 13, 14, 15%. Est-ce que dans ces moments-là, du coup, il n'y a pas des personnalités politiques de moindre importance qui se disent, si après tout, s'il faut seulement faire ce score-là, est-ce que je ne serais pas capable d'y arriver? Alors, avec en plus cette dimension où, lorsqu'on a un candidat du Rassemblement National face à soi, on a un peu tendance à se dire que l'élection présidentielle est en réalité à un tour.
Alors que, en effet, cette dimension-là crée un appel d'air pour une multiplication des candidatures, peut-être. C'est une hypothèse qu'il ne faut pas totalement écarter. Il en demeure pas moins que ce à quoi nous assistons, il me semble, c'est ça peut-être le plus important, c'est que depuis l'élection finalement d'Emmanuel Macron en 2017, qui a été une surprise, sur le fond. Personne en 2016 aurait pensé que ce jeune ministre, quittant le gouvernement, créant sa propre formation politique, allait pouvoir l'emporter dans une campagne où il y avait en 2016 des candidatures comme celle de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, potentiellement François Hollande, potentiellement d'autres responsables politiques à gauche.
Après la primaire de l'UDLR, tout le monde imaginait François Fillon président de la République, quoi, dans l'esprit.
Exactement.
Beaucoup, c'était fait, oui.
Et si vous voulez, le fait que cette élection, quand même, qui reste une grande surprise dans la tradition de la Ve République, a vraisemblablement aujourd'hui créer les conditions pour qu'un certain nombre de candidats qui n'auraient certainement pas pensé être candidats il y a quelques années au regard de leur âge, au regard de leur expérience, pensent qu'aujourd'hui, c'est possible. Tout est devenu possible aux yeux d'un certain nombre de responsables politiques. Je crois que cet aspect-là est très important aussi.
Valentin Gore.
Non, je vous remercie, monsieur, d'avoir évoqué Pierre Messmer et ses doutes. Et ça dit beaucoup de l'indécence de la classe politique actuelle qui se considère au niveau. Et là, on voit vraiment le passage de mai 68 et tout ce qu'il y a eu ensuite derrière avec ce côté « moi, moi, moi ». Ce qui est frappant aussi, peut-être serez-vous d'accord, c'est l'espèce d'esprit de 4e République qui domine depuis 2024, on en a beaucoup parlé, le jeu parlementaire, et avec des personnages politiques qui jouent très petits bras, hein, qui se disent est-ce que je vais saisir mon moment, est-ce qu'il n'y a pas là une occasion d'être non pas président du Conseil, mais carrément président de la République. Est-ce que vous n'êtes pas frappé par cette espèce de... ce manque de décence, je dirais pas indécence, mais c'est cette relativité qui semble emporter les principaux responsables de notre vie publique?
Alors, moi, je pense pas qu'on assiste à un retour à la 4e République. Alors, d'abord, pour deux raisons. Première raison, j'allais dire, la qualité du personnel politique, parce que le personnel politique de la 4e République, malgré les problèmes qu'a pu rencontrer la 4e République du fait de son vice institutionnel initial, avait en son sein quand même des responsables politiques de très grande qualité, qui avaient une histoire et une trajectoire évidemment historique qui était totalement différente de la trajectoire historique de tout un ensemble de responsables politiques d'aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même, le personnel politique était très différent. Il était quelque part entravé par un système institutionnel qu'il avait lui-même d'ailleurs établi, hein. C'est pour ça d'ailleurs que De Gaulle part en 1946. Mais globalement, on avait un niveau de responsable politique qui était, qu'on le veuille ou non, à la hauteur du pays. Le deuxième élément, c'est que la 4e République avait des logiques politiques et partisanes qui étaient quand même beaucoup plus claires, qu'on le veuille ou non, que celles qui sont les nôtres aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, c'est vrai qu'il y avait un gros bloc central sous la 4e République. Aujourd'hui, on parle de socle commun, de bloc central, mais vous aviez un bloc central qui, d'ailleurs, généralement, institutionnellement, était majoritaire à l'Assemblée nationale, avec, sur l'aile droite, en effet, plutôt les gaullistes, et sur l'aile gauche, les communistes. Alors ça, c'est vrai que c'est un facteur qui peut être comparé à ce que nous vivons aujourd'hui, mais la différence fondamentale, c'est que arithmétiquement, à l'Assemblée, ce bloc était majoritaire, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui avec...
C'est un socle minoritaire composé de composantes minoritaires, de toute façon.
Aujourd'hui, nous avons une minorité, nous avons quelque part une minorité de blocage, ce qui n'était pas le cas sous la 4e. La 4e, si vous voulez, ça se dissolvait de l'intérieur. Les coalitions, à un moment donné, en effet, se défaisaient, certes, mais elles retrouvaient un étiage parlementaire qui leur permettait finalement d'avoir une forme de stabilité aussi, quelque part. Donc c'est une différence, je pense, assez fondamentale avec la 4e République. Et la 4e République a eu, il faut-il le rappeler aussi quand même, le grand défi de la reconstruction, et elle y est parvenue d'une certaine façon. Il y a une différence fondamentale, si vous voulez, entre la 4e République et la 5e République. La 4e République a reconstruit. La 4e République, c'est quand même une grande partie des 30 Glorieuses. Alors qu'aujourd'hui, on se retrouve dans la période que nous traversons, avec un pays qui est très endetté, un pays qui est désindustrialisé et un pays qui n'est pas capable de faire face à un certain nombre d'enjeux de société, notamment la question de la sécurité, notamment la question du contrôle des flux migratoires. Et donc, si vous voulez, il y a quand même une différence, me semble-t-il, entre la 4e et la 5e de ce point de vue.
En vous écoutant, Arnaud Benedetti,
Entre la 5e telle qu'elle est aujourd'hui.
Mais hein, justement, Arnaud Benedetti, en cherchant des bonnes raisons, enfin, en cherchant des points positifs à cette 4e République, on en viendrait presque à se demander, mais est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement abolir la 5e République? Et dans le fond, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, avec l'idée d'une 6e République, n'avait pas un train d'avance sur la plupart de la classe politique, en fait?
Alors, si vous voulez, moi, je pense que la 5e République, qui est c'est une architecture institutionnelle qui, quand même, a fait largement ses preuves, parce qu'elle a permis de traverser des crises multiples et variées, elle a assuré de la stabilité au pays, c'est plutôt l'usage que l'on fait des institutions qui aujourd'hui pose fondamentalement problème. Après, se pose une question, et oui, là, je vous rejoins, qui est, à mon sens, pertinente. Faut-il aujourd'hui considérer que la fonction présidentielle telle qu'elle a été pensée est toujours adaptée au personnel politique que nous avons aujourd'hui ?
Et aux configurations.
Moi, je pense qu'il y a une rupture. Il y a une rupture, juste un point qui me paraît important, il y a eu une rupture en 2007. C'est-à-dire que globalement, jusqu'à 2007, nous avons eu des présidents de la République qui ont été certes critiqués et qui étaient critiquables pour un certain nombre d'entre eux, mais qui tous, qu'on le veuille ou non, ont occupé la fonction présidentielle sans que finalement ils soient critiqués sur la façon dont ils tenaient le rang. La rupture vient à partir de 2007, avec une génération politique, et la génération qui est née après la guerre, la génération des boomers, qui va accéder au pouvoir, qui a été socialisée dans finalement une forme d'individualisme, et qui pense que la fonction présidentielle peut s'adapter à leur personnalité, alors que, in fine, la personnalité doit quelque part passer derrière la fonction présidentielle. Je ne dis pas que les présidents n'avaient pas de personnalité, ils avaient une forte personnalité, mais ils tenaient le costume présidentiel et ils n'en sortaient pas. Et en ça, c'est très important.
En tout cas, il est vrai que l'élection de Nicolas Sarkozy, alors moi j'avais 17 ans à l'époque, mais je me rappelle bien de voir tous les commentateurs parler d'hyper-président, c'est la première fois en tout cas que les commentateurs insistaient sur vraiment une fracture de manière d'exercer le pouvoir. Enfin, sur le fait que Nicolas Sarkozy, en étant un hyper-président, déjà se démarquait de l'intégralité de ses prédécesseurs et inventait un nouveau style politique. Et alors, François Hollande, justement, avait pris le contre-pied politique avec cette idée du président normal, mais qui, pareil, n'est pas le costume du président de la Ve République, et Emmanuel Macron est presque revenu un petit peu sur l'aspect, sur la vision un petit peu sarkoziste. À quoi vous attribuez ça? Parce que le président normal, c'était un contre-coup, mais il n'obéissait pas, il n'allait pas non plus au costume initial de la Ve République, quoi.
Deux choses très intéressantes avec la comparaison Hollande-Sarkozy. D'abord, la présidence sous la Ve République, parce que peut-être qu'elle a été pensée, théorisée et élaborée par un militaire, c'est une présidence qui délègue. Vous savez, les militaires, ils ont une grande capacité, c'est quand même la capacité de délégation. Et le général de Gaulle était quelqu'un qui pensait que le pouvoir se déléguait aussi. Il y avait un contrôle, évidemment, qui s'effectuait, mais il déléguait fortement. Il était vertical, mais il déléguait. On peut être vertical et délégué. Ça c'était un premier point, et en effet Nicolas Sarkozy, en voulant ramener tout à lui d'une certaine façon, d'abord il s'est surexposé, on l'a vu, et il a pratiqué une forme de micromanagement d'une certaine manière, et il a vraisemblablement de ce point de vue là abîmé aussi la fonction présidentielle. Quant à en effet le président normal, il est évident que une présidence n'est pas quelque chose de normal. Je ne dis pas qu'elle est quelque chose d'anormal, mais elle ne peut pas être quelque chose de normal compte tenu de la charge effective que vous investissez, du poids des responsabilités considérables qui est le vôtre, du poids de l'histoire encore que constitue la responsabilité au plus haut niveau de l'État, telle qu'elle a été pensée par le général de Gaulle et par les constituants de la Ve République. Donc il ne peut pas y avoir de présidence normale. Quant à Emmanuel Macron, finalement, il a d'une certaine manière reproduit ce que faisait Nicolas Sarkozy, en essayant de concentrer tous les pouvoirs et finalement en déléguant très très peu à ses premiers ministres et également à ses ministres.
Ouais. Étienne Darjac, finalement, dont je vous repose un petit peu ce qu'on ne vous a pas entendu au cours de le début de ce débat, est-ce que je vous repose un peu la même question qu'Arnaud Benedetti, est-ce qu'il faut revenir aux origines de la Ve République, est-ce que il faut changer de république, quel est votre point de vue sur la question?
Eh ben écoutez, je serais tenté de vous dire réponse après 2027. Pourquoi? Parce que la présidentielle qui vient va clôturer 10 ans de macronisme, qui elle-même, le macronisme lui-même clôturait, on va dire, 30 ou 40 ans, bon an, mal an, de l'alternance entre le bloc de droite bourgeoise et le bloc de gauche bourgeoise. Donc on est un peu, on a un peu un nouveau monde qui arrive devant nous et on ne sait pas très bien et c'est assez compliqué de deviner à quoi il va ressembler. Est-ce qu'il y a une possibilité ? Est-ce que finalement les blocs de gauche et de droite vont se reconstituer ? On voit Édouard Philippe fricoter avec Laurent Wauquiez, ça ressemble un peu à l'UMP de Sarkozy finalement. Est-ce qu'au contraire, l'avènement du Rassemblement National ou de Jean-Luc Mélenchon va ouvrir une nouvelle séquence dans l'histoire de la Ve République qui nécessairement provoquera de grands remous dans les institutions et dans la façon de gouverner, dans le rapport d'un pouvoir présidentiel au système. Voilà, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Donc, je crois que le destin de la Ve République est un peu lié à l'issue de cette présidentielle et un peu lié à on parlait tout à l'heure de la fin de vie, voilà, bah, la fin de vie
du macronisme. Ouais, à sa capacité à se remettre du macronisme, en fait. Donc,
on peut le prendre comme ça. Mm. Mais bon, comme à se remettre aussi des 40 années avant Emmanuel Macron, hein, qui n'est pas. Emmanuel Macron est beaucoup plus la conséquence de 40 ans de naufrage que la cause.
Arnaud Benedetti, je vous laisse peut-être rebondir là-dessus. Simplement, la question qui va venir après, c'est qu'effectivement, il y a la question de l'élection présidentielle en 2027 qui se pose, mais surtout l'autre question assez prégnante et peut-être paradoxalement encore plus importante que celle de qui occupera l'Élysée, est-ce que l'Assemblée nationale, en l'état actuel des choses, en l'état actuel des forces politiques, est capable de dégager une majorité absolue ? En fait, finalement, est-ce que cette France post-macroniste sera gouvernable ?
Alors d'abord, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que finalement, Emmanuel Macron et l'élection d'Emmanuel Macron est un symptôme de ce qui est perçu comme 30 ans, voire plus, d'inefficacité politique, de perte du contrôle par le politique d'un certain nombre de prérogatives. Donc ça, je crois que c'est un point essentiel et c'est la raison pour laquelle quelqu'un comme Emmanuel Macron a pu se faufiler dans un trou de souris en mimant le dégagisme d'une certaine manière, mais en permettant in fine aux anciennes forces de gouvernement de se reconstituer sous une forme et de continuer à gouverner. C'est ça, le macronisme. Ouais. Le macronisme n'est pas une rupture, il est la continuation transformée d'un système qui, de fait, est de plus en plus rejeté par une majorité des Français.
Absolument.
Ça, c'est un point, me semble-t-il, important. Sur la suite, je veux dire, il est évident que le président qui sera élu, je veux dire, aura un grand défi, et certainement un défi qui n'a jamais été aussi lourd après une élection présidentielle, c'est de pouvoir disposer d'une majorité absolue ou d'une majorité relative, puisqu'il sera ce président, de toute façon, contraint de dissoudre. Je ne vois pas un président qui ne dissoudrait pas cette Assemblée nationale.
Arnaud Benedetti, je mets une petite insiste pour nos éditeurs, parce que je le rappelle, parce que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. L'Assemblée nationale qui a été élue en 2024, elle est théoriquement pour 5 ans, donc théoriquement, elle siège jusqu'en 2029. Voilà, je vous laisse poursuivre.
Exactement, mais souvenez-vous, par exemple, quand Jacques Chirac est élu en 95, il fait le choix de ne pas dissoudre.
Absolument.
En 95, et il va dissoudre en 97. Il est évident que s'il avait décidé de dissoudre en 95, il n'aurait certainement pas retrouvé la majorité pléthorique qui était celle de 93, mais il aurait obtenu une majorité, et ce qui lui aurait évité une dissolution quelques temps plus tard.
Voilà, il voulait dissoudre l'Assemblée, il a dissous la droite, comme disait.
Là, en l'occurrence, on n'est même pas dans cette situation, puisqu'on est dans une situation où on est avec une Assemblée qui est incapable de pouvoir construire une majorité. Le premier défi de ce président, quel qu'il soit, ça sera de pouvoir disposer d'une majorité à l'Assemblée nationale. Et là, on a une élection finalement vraiment à 4 tours qui va être extrêmement importante. Prenant l'hypothèse d'une élection d'un candidat du Rassemblement national, rien ne nous dit d'abord la campagne législative sera particulièrement compliquée, on peut l'imaginer, si c'est un des candidats du Rassemblement national qui l'emporte. Et rien ne nous dit que dans la foulée, le Rassemblement national disposera forcément d'une majorité absolue. Il est évident que si c'est un candidat du Bloc central, on peut se retrouver dans une situation qui sera aussi compliquée que celle de 2024. Donc nous n'avons pas l'assurance aujourd'hui, à ce stade, qu'il y ait une majorité pour un président nouvellement élu, ce qui obligera finalement la Ve République, cette fois-ci, à trouver un mode de fonctionnement qui puisse assurer de la stabilité, et ce qui n'est pas gagné d'avance.
Valentin Gore.
Oui, c'est intéressant parce que, évidemment, on verra à ce moment-là si la Ve République, dans l'hypothèse que vous dites, est capable de s'accommoder d'une logique de coalition après la cohabitation, dont déjà on annonçait qu'elle ne le supporterait pas, elle l'a très bien supporté trois fois. Donc, ça, ces institutions, moi, elles me paraissent assez sûres, contrairement à ce que j'entends. Évidemment, quand on les malmène, quand on l'a, comme l'a fait M. Macron, c'est moins simple. Mais est-ce que. Au-delà de tout ça, il y a aussi le sujet du référendum qui revient avec Édouard Philippe qui veut faire des référendums, le RN, quel que soit le candidat, qui en fera. Est-ce que ça aussi, c'est pas l'un des problèmes de la France, d'être resté avec ce fameux référendum de 2005 qui hante depuis nos gouvernants, qui ne veulent surtout pas retenter cette expérience, qui était pourtant, qui fait partie du socle de la Constitution telle que l'a voulu De Gaulle, qui devrait être exercé beaucoup plus souvent?
Oui, ça fait maintenant 21 ans qu'aucun président de la République n'a décidé de soumettre une question à référendum depuis le référendum de 2005. Emmanuel Macron en a promis plusieurs durant son double quinquennat et il n'y aura pas récemment de référendum lorsqu'il quittera l'Élysée. Oui, vous avez raison parce que d'abord, Debré disait une chose juste, il disait quand il y a un sujet de défiance, par exemple entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, il faut savoir recourir au référendum pour trancher la question. Et quand on interroge les Français, les études d'opinion le montrent, ils souhaitent être interrogés sur tout un ensemble de questions. Sur la question migratoire, mais même pendant la réforme des retraites, une majorité de Français souhaitait être interrogés sur la réforme des retraites. Donc, il est évident que l'une des clés pour vraisemblablement réconcilier les Français, réinstaurer la confiance des Français dans les institutions, dans leurs institutions, ben l'une des clés, c'est le passage par le référendum. Mais c'est le passage par le référendum sur des questions qui sont considérées comme existentiel par les Français. Ce qu'il faut éviter vraisemblablement, et le risque, c'est qu'on recourt à l'outil référendaire sur des questions qui peuvent être parfois périphériques. La vérité, c'est qu'il faut interroger les Français sur ce qu'ils considèrent comme vital pour la nation.
Emmanuel Macron, vous ne voulez pas les consulter pour la censure des réseaux sociaux, non?
Les écrans pour les enfants, oui.
effectivement, on n'est pas sur des sujets concernant, comme dirait l'autre. Alors, on en arrive du coup, Arnaud Benedetti, à ce point absolument absurde où on a tous les héritiers, mais qui ne le sont pas, d'Emmanuel Macron, qui sont en train de s'affronter pour l'élection présidentielle. Donc, on a ce socle commun minoritaire, on l'a dit. On a Édouard Philippe, Gabriel Attal. On peut même rajouter Bruno Retailleau, en fait, en réalité, là-dedans. On a, avec en plus le Gérald Darmanin, Xavier Bertrand, on a un petit peu justement toutes ces 50 nuances de bloc central qui sont en train de se lancer dans la bataille. Et c'est peut-être la première fois dans l'histoire de la Ve République où aucun de ces candidats ne se réclamera du président de la République sortant. Comme si tout le monde, voulait enterrer. Quand j'ai dit Bruno Retailleau, je vous ai vu tiquer. Effectivement, il y a des nuances à apporter. Mais en tout cas, aucun de ces candidats ne se réclame d'Emmanuel Macron. Comme si, même chez les héritiers présomptifs d'Emmanuel Macron, on n'a qu'une seule hâte, c'est enterrer définitivement le macronisme et son initiateur avec, en quelque sorte.
Vous avez raison, sauf que le macronisme se rappellera à eux. Il se rappellera à eux pour une raison simple, c'est que tous ces candidats que vous avez cités, alors à l'exception quand même peut-être de Xavier Bertrand, puisque lui n'a pas été, il n'a pas occupé de fonction.
C'est pas faute de l'avoir voulu pourtant.
C'est pas faute de l'avoir voulu, mais le hasard ou le refus a bien fait les choses pour lui, en l'occurrence, au moins sur ce sujet-là. Tous seront à un moment donné rattrapés par leur passé macroniste. Et tout l'enjeu pour eux est à la fois, malgré tout, de l'assumer d'une certaine manière, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ne serait-ce que parce qu'il y a quand même une partie des électeurs du socle central qui reste fidèle à la figure d'Emmanuel Macron, tout en s'en différenciant, tout en faisant ce devoir ou droit d'inventaire, comme disait Lionel Jospin en parlant du mitterrandisme. Et le problème pour eux, c'est justement de tenir cet équilibre. Comment finalement vous pouvez incarner la rupture tout en étant un élément de la continuité qui pendant 10 ans a géré le pays? Et on voit bien que là, il y a un vrai sujet, un vrai problème pour eux, ce qui fragilise considérablement les candidatures du socle central, qui aujourd'hui, quand même, quand on regarde les intentions de vote, même s'il faut rester extrêmement prudent compte tenu, j'allais dire, du laps de temps qui nous sépare du premier tour de l'élection présidentielle, mais on se rend compte que aucune des candidatures du socle central, pour l'instant, ne dispose d'une dynamique telle qu'elle lui assure une qualification au second tour de l'élection présidentielle, ce qui rend probable, à l'heure où l'on parle, probable, je dis bien, pas sûr, mais un second tour avec bien évidemment le Rassemblement national qui paraît hors d'atteinte, comme vous l'avez dit, et puis un candidat de gauche et peut-être Jean-Luc Mélenchon.
Et peut-être très à gauche. Merci beaucoup Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous pour évoquer la préparation de cette élection présidentielle. On vous retrouve très bientôt évidemment dans cette émission, mais aussi
merci
sur les nombreuses chaînes de télévision et de radio auxquels vous participez. On va profiter de la dernière minute qui nous reste, chers auditeurs, pour lire vos dernières questions et remarques qui touchent notamment Gabriel Attal. Hypothèse d'un auditeur, si Gabriel Attal est attaché à la GPA dont il parle tant, c'est parce qu'il veut un enfant. Alors effectivement, Gabriel Attal est pour la GPA et désire avoir un enfant, mais comme...
Oui, on pourrait presque l'accuser de conflit d'intérêts.
Je ne sais pas si ça compte. Je ne sais pas si ça compte dans ce sens-là, Étienne Darjac. Mais en tout cas, si vous souhaitez saisir le défenseur des droits ou une quelconque CADA pour avoir une information, cette information, n'hésitez pas. Et dernière remarque d'un auditeur. Attal, c'est une illustration de la célèbre réplique des Tonflingueurs. Ça ose tout. Voilà. Eh ben écoutez, c'est une très belle phrase de conclusion. Il faut toujours citer du Audiard pour terminer une émission ou un propos intelligent. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Merci Étienne Darjac et Valentin Gore d'avoir été avec moi pour ce Raison Courtois du jeudi. On se retrouve jeudi prochain pour le Raison Courtois de Valeurs Actuelles. Mais d'ici là, retrouvez demain Marc Baudrier et Boulevard Voltaire pour le Raison Courtois du vendredi. Bonne soirée et à bientôt.
Ça suffit maintenant.